Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le jeudi 18 novembre.
Troisième jeudi du 11e mois, un cœur dans mon calendrier. Jeff, lui, il en a mis trois, c'est l'événement de l'année.
Alors l'événement de l'année, c'est à peine exagéré, mais pourquoi pas, le Beaujolais nouveau est arrivé.
Avec son lot de piquettes, saveur banane ou framboise, mais aussi ses bonnes bouteilles, réhabilitation en règle du Beaujolais nouveau et du Beaujolais tout court avec Olivier Pouls à 6h moins le quart dans la prescription culture.
Le Beaujolais nouveau est arrivé.
À consommer avec modération, a fortiori, à 4h57.
L'actualité de ce jeudi 18 novembre, avec également, actualité se joue également à 500 km d'altitude.
L'espace est-il en passe de devenir un champ de bataille comme les autres? C'est la question sur toutes les lèvres après la démonstration de force de la Russie. Lundi, Moscou a éparpillé façon puzzle l'un de ses satellites après le tir d'un missile, explosion qui a provoqué un nuage de débris spatiaux et la panique par la même occasion dans la station spatiale internationale. Provocation, indignation et surtout illustration de la militarisation de notre voûte céleste. La nature a horreur du vide et du vide, l'espace en a à en revendre. On en parle à 6h10 avec Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Omblin, à partir d'aujourd'hui, on peut s'offrir un objet, un vêtement qui a appartenu à Juliette Gréco.
Oui, vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de casser votre tirelire, hein, Julien, c'est quand même la bonne nouvelle. Pendant 3 jours, des objets de collection, mais également des effets personnels et intimes de la chanteuse sont mis aux enchères. Plus de 750 lots composent cette vente de souvenirs de Juliette Gréco. Alors j'ai regardé, il y a par exemple des gants en cuir Yves Saint Laurent estimés entre 60 et 80 euros, un tailleur Chanel en soie estimé entre 200 et 300 euros, voilà, des chaussures, des bijoux, des meubles.
Et parmi ces objets se trouve notamment un trésor.
Oui, une toile signée Serge Gainsbourg qu'il avait offert à Juliette Gréco juste après leur rencontre en 1959. La peinture, cet art majeur, son seul amour, disait-il. Il existe très peu de toiles de Serge Gainsbourg en circulation aujourd'hui, 5 sans doute. A priori, on sera à 5h40 avec le commissaire priseur de la maison Créé Muller en charge de la vente à l'hôtel Drouot à Paris.
Et puis on terminera avec votre partition.
Et l'une des plus belles voix, l'une des plus grandes voix américaines. Pianiste virtuose, Nina Simone voulait devenir la première grande pianiste classique noire. L'histoire en décidera autrement. On retournera à ses débuts à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. On commence avec la météo. Bonjour ma chère Anissa.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Comment s'annonce ce jeudi?
Eh ben pas si mal, et même pas mal du tout. Alors ce matin, sur les Pyrénées, le Languedoc, le Roussillon, la Provence, la Côte d'Azur, la Corse, les Alpes, là vous avez du soleil. La journée commence très bien, un soleil qui brille dans un ciel quasiment sans nuages, et ça va durer toute la journée. Bon, on a toujours du vent, Mistral et Tramontagne qui souffle jusqu'à 70 km/h aujourd'hui. Partout ailleurs, il va faire très gris ce matin, c'est très couvert. On a d'ailleurs beaucoup de brouillard, des brouillards qui par endroits sont très épais. Soyez prudents sur la route, tout le monde est concerné sauf le pourtour méditerranéen. Et alors cet après-midi, c'est là que c'est pas mal. Étant donné que nous avons une masse d'air qui est bien plus sèche aujourd'hui, eh bien ça y est, le soleil est de retour. On a de belles éclaircies sur toute la France. Allez, sur l'Auvergne, le Grand Est et la Bretagne, là on a quelques nuages un peu plus épais qui traînent, mais enfin rien de très inquiétant. Ça reste quand même une journée agréable. Les températures, on a moins de nuages, donc il fait un peu plus frais. On a moins 2 degrés ce matin à Mout. Vous savez, dans le Doubs, ce qu'on appelle la petite Sibérie, Mout, on a 1 à 12 degrés.
Comment on appelle les habitants de Mout?
Ah ben on va chercher, tiens, la gentille.
Les moutois, les mou...
Les moutiens, je sais pas, on va chercher ça.
Regardez.
Ou alors vous nous écrivez si vous nous écoutez au cœur de la petite Sibérie française. Et puis 7 à 20 degrés cet après-midi, c'est assez stationnaire. Il va faire un peu plus frais, forcément on a moins de nuages. Par exemple à Paris, on va passer de 14 à 11 degrés. Voilà,
les moutiards plus. Et moutiardes.
Les moutiards, et ben on les embrasse.
On les embrasse. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. La cinquième vague de Covid submerge l'Europe et la France n'est pas épargnée. Plus de 20 000 cas par ces dernières 24 heures. Alors pour sauver les fêtes de fin d'année, le gouvernement pousse les Français à se faire vacciner. Pour accélérer les choses à Marseille, les doses de Pfizer viennent jusqu'au pas de votre porte. Reportage à suivre. Les 34 000 maires de France ont leur nouveau président, David Lisnard. Le maire LR de Cannes, héritier de François Baroin, a obtenu 62% des suffrages face au macro-compatible Philippe Laurent. Nous sommes allés à la rencontre des élus plutôt satisfaits à la annonce des résultats. Et puis les Anglais rassurés, leur reine est apparue hier en pleine forme, 3 jours après avoir manqué une cérémonie pour raison de santé.
Europe Matin, Omblin Roche. Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce jeudi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La cinquième vague de Covid nous gâchera-t-elle les fêtes de fin d'année? Elle déferle sur l'Europe. La Belgique repasse au télétravail, la Suède instaure le pass vaccinal et la France n'est pas épargnée. Pas de panique, assure Gabriel Attal. Nous avons de bonnes raisons de penser que la vague n'emportera pas tout sur son passage.
La raison, c'est notre fort taux de vaccination, même s'il reste des trous dans la raquette.
Oui, hein, il y a les doses de rappel et surtout ces 6 millions de Français qui n'ont toujours pas reçu d'injection. Certains départements, certaines villes sont en retard. C'est le cas par exemple dans les quartiers nord de Marseille. Alors une association de santé publique frappe aux portes des non-vaccinés. Reportage de notre correspondant Stéphane Burgat.
Ce matin-là, l'équipe de l'association 7 se rend au domicile d'Alberte, 83 ans, pour sa toute première injection.
Pourquoi vous avez pris du retard à la vaccination ?
Moi, je marche pas, alors bon.
Le docteur Adi Gislim assure également une permanence dans un centre médical du quartier où il fait face aux réticences des habitants.
Beaucoup d'informations erronées sur la vaccination. Les puces implantables, des idées délirantes qu'ils ont trouvées sur Internet.
Et c'est pourquoi le président de l'association Santé Environnement pour tous, Yazid Atala, organise des opérations de porte à porte.
C'est du corps à corps, hein, donc on va vers les gens, on discute avec eux, on essaye vraiment de les chercher. Maintenant, on commence à rattraper un tout petit peu notre retard. On est sur une remontada vaccinale. Actuellement, je pense qu'on doit être aux alentours de 45% de personnes vaccinées.
Exemple avec Joumouyat qui se présente au cabinet médical de l'association.
Moi, je ne voulais pas le faire, comme j'ai attendu beaucoup de rumeurs. Mais quand la femme est venue chez moi ce matin, elle a tapé la porte. Je dis, ben, c'est le bon Dieu qui vous avait envoyé. Elle m'a bien expliqué. Je dis, je te suis.
Mais ces militants associatifs préviennent, ils ne pourront pas à eux seuls rattraper tout le retard vaccinal accumulé dans les quartiers nord. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
Il incarne la relève chez les LR. David Lisnard, retenez ce nom, c'est le nouveau président de l'Association des maires de France.
Le maire de Cannes, élu hier après un scrutin marqué par l'abstention. Près des deux tiers des 34 000 élus n'ont pas voté. Celui que l'on a désigné comme l'héritier de François Baroin, le président sortant, a recueilli 62% des voix face au Macron compatible Philippe Laurent. Victor Chabert était sur place à l'annonce des résultats.
Dans les allées du parc des expositions, si la majorité des maires saluent la continuité avec l'équipe précédente, ils font un vœu pieux que David Lisnard se tienne loin des considérations politiciennes, comme cet élu d'une petite commune de 390 habitants de l'Isère.
C'est très bien, on a un nouveau président. En revanche, j'espère que nous pourrons continuer à travailler comme nous le faisions avant, en dehors des partis.
David Lisnard est attendu sur de nombreux dossiers, en priorité selon ce maire insoumis de la banlieue lilloise, la relation avec l'exécutif.
J'espère que ça sera un président qui va tenir ferme par rapport au pouvoir et au gouvernement, parce que les maires et les collectivités locales prennent cher, si je peux dire comme ça.
Même au Rassemblement National, on se réjouit de son élection. Pour David Racheline, maire de Fréjus et vice-président du RN, c'est aussi un nouveau raté pour Emmanuel Macron, accusé d'être derrière la candidature concurrente de Philippe Laurent.
C'est un échec pour le président de la République qui a tenté de manœuvrer. La MS, c'est faire passer le message des maires au plus haut niveau de l'État. Bon, je pense que David Lisnard saura le faire.
Cet après-midi, David Lisnard prendra la parole pour la première fois. Un discours qui sera suivi par celui d'Emmanuel Macron.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. David Lisnard, nouveau président de l'Association des maires de France, sera l'invité aujourd'hui de La France Bouge de 13h à 14h sur Europe 1.
Bernard Cazeneuve à la barre hier au procès des attentats du 13 novembre 2015.
L'ancien ministre de l'Intérieur entendu au 44e jour du procès, tout comme le procureur de la République de Paris à l'époque des faits, François Molins. Tous deux ont témoigné devant la cour de leur action, notamment avant le 13 novembre, ne permettant donc pas d'empêcher les terroristes de frapper Ressier Gladys Laffitte.
La venue d'un procureur de la République de l'autre côté de la barre est inédite, d'autant que François Molins s'est confessé assis face à la cour car souffrant du dos. Tout n'a pas été parfait, mais on a fait au mieux en donnant le meilleur de nous-mêmes. Comme lui, l'ex-ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a avoué un échec. Aurait-il pu mieux faire ? Cette question me hante en permanence. Deux hommes ayant l'état de droit chevillé au corps, défendant leur action contre l'inévitable, selon le magistrat. La question n'était pas de savoir s'il y aura un attentat, mais quand ? Je pense qu'en réalité, on n'était pas préparé à une attaque sur 8 sites. Malgré une série de mesures, les angles morts, comme les appelle Bernard Cazeneuve, ont profité aux terroristes. Aucun contrôle aux frontières extérieures de l'Europe, l'impossibilité de disposer d'un ensemble de données des voyageurs aériens et une coopération européenne insuffisante. Bref, rien qui ne permette de gagner cette course contre la montre qu'il a décrit pour éviter le pire. 100% de précautions ne sont jamais le risque zéro et cela demeurera longtemps encore, a regretté l'ex-ministre de l'Intérieur.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Les Anglais rassurés, la reine is back. Elisabeth II, 95 ans, à nouveau de retour au premier plan.
Après un repos forcé, des absences répétées à cause de son état de santé, ses sujets inquiets de ne plus voir leur reine ont poussé un ouf de soulagement. Elisabeth II filmée pour la première fois depuis un mois lors d'une audience publique hier. Notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
C'est une image destinée à rassurer les Britanniques sur l'état de leur reine. Debout, sans canne, vêtue d'une robe aux couleurs automnales et souriante, Elisabeth II apparaît en pleine forme quand elle serre la main du chef d'état-major de la Défense. Elle le reçoit dans un salon du château de Windsor à l'occasion du départ à la retraite de cet officier de haut rang. Une conversation et quelques bons mots sont échangés sur sa longue carrière.
I suppose if you get into that job, you know, it's easier to.
C'est la première fois qu'on voit la reine en audience en face à face depuis le 19 octobre dernier lors d'une réception au château de Windsor. Depuis, elle avait été mise au repos forcé par ses médecins et a manqué des événements majeurs comme la COP26 et la cérémonie d'hommage aux forces armées dimanche dernier. Cette image ne veut pas dire qu'elle est de retour comme avant, mais qu'elle va bien et qu'elle continue de tenir son rôle. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Europe 1 vous propose d'ailleurs un tea time quasi royal aujourd'hui avec l'ex-belle-fille de la reine, la duchesse d'York, Sarah Ferguson, invitée à partir de 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner à 5h08 sur Europe 1 et il est un petit peu tôt, mais nous serons nombreux ce soir à l'apéritif à sortir les verres à vin.
Et oui, pour goûter le fameux Beaujolais nouveau, car nous sommes le troisième jeudi du mois de novembre. Chaque année, on lui trouve un nouveau goût, banane, mûres, prunes, qu'en est-il cette année? Les épisodes de gelée du printemps dernier ont-ils eu un impact sur ce nouveau millésime 2021? Première dégustation avec notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon.
Cette année, c'est le retour au classicisme. Le Beaujolais nouveau 2021 ressemble beaucoup aux cuvées des années 80-90, avec un vin frais, léger, ne titrant pas plus de 12 degrés. Très différent donc de ceux des dernières années où les canicules avaient donné des vins beaucoup plus alcoolisés. Le froid et la pluie ont joué un grand rôle, estime Daniel Bullia, vigneron à Beaujeux et président d'Inter-Beaujolais.
C'était une année quand même compliquée pour les vignerons, avec du gel au printemps, des conditions climatiques d'été qui étaient quand même plus géométriques. Ça a permis d'avoir un millésime donc plus tardif, de l'ordre de 3 semaines plus tard que l'année dernière, donc ça donne forcément un vin plus léger, plus fruité, gouléant, avec un petit peu moins d'alcool et sur la légèreté.
Et pour ce qui est des arômes?
On part toujours des fruits rouges, je pense que l'algamé cette année a pu bien s'exprimer parce qu'il y a un bon équilibre acide, pH, et voilà, donc je pense que c'est un vin sur le fruit rouge, framboise, fraise, en fonction de chaque vigneron, puisque chaque vigneron élabore son Beaujolais nouveau comme il l'aime, et on peut dire qu'aujourd'hui qu'on ne fête pas le Beaujolais nouveau, mais on fête les Beaujolais nouveaux.
Et oui, car il y aura des fêtes et des dégustations cette année avec passe sanitaire, 17 millions de bouteilles produite pour 2021 en net retrait par rapport aux autres années, dont plus de la moitié pour le seul marché français. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et on le rappelle, si vous voulez goûter les Beaujolais nouveaux, c'est toujours avec modération.
Évidemment, et à l'inverse de ce journal, signé Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h09 sur Europe 1, c'est l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Fontainebleau et mon pari gagnant sera le 205 Impitoyable. Dépendant de l'entraînement de Carlos Lafont-Parias, bien armé dans cette génération des 2 ans, ce poulain reste sur une prometteuse 3e place sur l'hippodrome de Longchamp. Face à une opposition plus relevée que celle de cet après-midi et le style de sa fin de course me laisse à penser qu'il devrait pouvoir cet après-midi remporter sa première victoire. Alors notez bien, pour Fontainebleau, réunion 1 dans la 2e course, le numéro 5, Impitoyable.
Impitoyable, vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Merci beaucoup Thierry Léger. Très bon début de jeudi avec nous sur Europe 1 avec le sourire qui se prolonge dans une minute avec le pressing.
Ne vous éloignez surtout pas, on a déniché 3 articles à lire absolument. Selon nous, dans la presse ce matin, une guérison rarissime. Gilbert Bécaud, le grand oublié, et le Black Friday 2021 à oublier. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon réveil avec Europe 1, il est 5h11 et c'est l'heure de retrouver Martin Lange pour le pressing. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour, bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux. Covid en Europe, face à la vague, titre Libération avec pour illustration une courbe rouge qui monte en flèche. Bulgarie, République tchèque, Autriche, Allemagne, l'épidémie déferle à nouveau sur l'Europe. Et la France n'est pas épargnée, d'où cette question en une d'aujourd'hui en France. La 5e vague va-t-elle gâcher Noël ? Ce qui va assurément, en revanche, peser sur les fêtes, c'est le retour de l'inflation qui jette une ombre sur la reprise. C'est le titre à la une du Figaro. Voilà pour les unes. Martin, on commence avec vous. Quel article avez-vous déniché ?
Il y a un espoir ce matin pour tous les malades du sida. Une patiente argentine vient de guérir naturellement de la maladie grâce à son système immunitaire. Ce n'est que le deuxième cas de ce genre, d'où l'enthousiasme des scientifiques. Alors la patiente en question souhaite rester anonyme, mais ses médecins lui ont trouvé un surnom, la patiente d'Esperanza, double référence à sa ville, d'abord Esperanza en Argentine, mais surtout à l'espoir qu'elle suscite. Elle a été diagnostiquée séropositive en 2013, mais aujourd'hui plus rien. Elle n'a plus aucune trace du virus dans son organisme, et ce, sans traitement ni greffe.
Et comment les médecins l'expliquent ?
Eh bien, c'est le miracle du système immunitaire humain, tout simplement, résume l'immunologue chinois qui a étudié son cas. En fait, le système immunitaire de cette patiente a tué les cellules dans lesquelles le virus se loge, afin d'en produire de nouvelles, viables cette fois-ci. Résultat, sur le milliard de cellules sanguines et les 500 millions de cellules placentaires étudiées par les chercheurs, plus aucune trace de VIH, la jeune femme a tout simplement guéri seule.
Alors vous le disiez un peu plus tôt, Martin, cette guérison suscite énormément d'espoir.
Oui, car c'est le deuxième cas de ce genre. La première, c'était une Californienne de 67 ans, Lauren Willenberg, la patiente de San Francisco. Grâce à ces deux cas, les chercheurs émettent une hypothèse révolutionnaire. Certaines personnes seraient nées avec une résistance naturelle au VIH. Hypothèse révolutionnaire car elle permet d'envisager un traitement pour éduquer le système immunitaire des malades et leur permettre de maîtriser le virus. Trois autres hommes sont connus pour avoir guéri du sida. Timothy Ray Brown, Adam Casiliero et le patient de Düsseldorf, mais eux ont reçu une greffe de cellules souches, un traitement encore considéré comme trop toxique pour être élargi à toutes les personnes infectées. Une patiente guérit naturellement du VIH grâce à son système immunitaire, c'est à lire sur le site de Slate.
Merci beaucoup Martin. Omblin, on vous écoute.
Comment Gilbert Bécaud a-t-il pu être autant oublié ? C'est la question posée par le Figaro.
Et maintenant, que vais-je faire ?
Le directeur des programmes de Mélodie TV, Jean-Pierre Pasqualini, affirme amer sans doute que Gilbert Bécaud avait été oublié bien avant sa disparition. Le 18 septembre prochain, cela fera 20 ans qu'il nous a quittés. Il était pourtant une bête de scène, remplissait l'Olympia où le public dans les années 50 cassait les fauteuils. Gilbert Bécaud est de la génération de Charles Aznavour, d'Edith Piaf. Il tournait dans le monde entier, sa popularité était immense au Japon. Et en Amérique du Sud, sa chanson est maintenant devenue What Now My Love est reprise par Elvis Presley et Aretha Franklin. Et aujourd'hui encore, la version originale qu'on entend rapporte en droit d'auteur 10 000 euros par trimestre. Alors comment expliquer que Gilbert Bécaud ne soit pas encensé à la moindre occasion ? Eh bien, la faute d'abord à Gilbert Bécaud lui-même, mauvais communicant sur sa personne. On ne le voyait pas beaucoup dans les émissions à la télé. Il n'aimait pas parler du passé. Il n'a pas profité du cinéma pour faire sa promotion, accepter des rôles comme Yves Montand. Et puis le chanteur toulonnais, il faut bien le dire, n'était pas connu pour son amabilité. Ensuite, eh oui, ça aide pas. La guerre familiale.
Ça me fait penser à une citation du film Podium, mais c'est pas
merveilleux.
On ne la dira pas à 5h14.
Non, on va être censuré. La guerre familiale qui a suivi son décès n'a rien arrangé. Elle a même empiré la situation et a enfoncé un peu plus Gilbert Bécaud dans l'oubli. L'artiste a eu 5 enfants de 3 mères différentes. Il a adopté une petite fille au début des années 90. C'est son fils aîné, Gaïa Bécaud, qui détient le droit moral de l'œuvre du chanteur. Rien ne se fait sans son aval, que ce soit des sorties de best-of ou d'albums de reprise. Et en multipliant les vétos, eh bien, les relations avec le reste de la famille se sont dégradées. Le cas Bécaud est un cas unique dans la chanson française. Personne n'ose se lancer dans cette bataille, pas même un Johnny Hallyday. Il n'y est pas allé non plus, trop compliqué. La résistance, cependant, semble s'organiser. Demain, l'une des filles de Gilbert Bécaud, Émilie Bécaud, va sortir un coffret triple CD baptisé « Je reviens te chercher » avec en bonus 3 duos virtuels avec son père.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais.
Gilbert Bécaud, trop longtemps oublié dans le Figaro. Il faut que ça change.
Se passer l'un de l'autre longtemps.
C'est dit, merci beaucoup Omblin. J'ai choisi pour ma part cette question que l'on trouve ce matin à la page 8 du Parisien aujourd'hui en France. Le Black Friday est-il vraiment un bon plan ? Question d'autant plus brûlante que le coup d'envoi de cet événement commercial est dans tout juste 8 jours et que de nombreuses familles attendent impatiemment cette avalanche de promotions pour garnir de cadeaux le pied de leur sapin de Noël. Mais est-ce que c'est moins 10, moins 20, moins 30% qui vont pulluler sur nos écrans sont de réelles promos ? Eh bien, ça dépend. Tout dépend en fait du point de comparaison que vous prenez. C'est ce qui ressort d'une étude menée par Idealo, un comparateur en ligne qui a analysé l'évolution des prix hebdomadaires par catégorie lors des 4 semaines avant l'opération et la semaine suivante. Résultat, le prix de certains produits augmente une semaine avant le Black Friday, avant de baisser lors de l'événement. C'est une technique bien connue et dont abusent allègrement les vendeurs d'électroménager et de jouets, si bien que le prix moyen est au final quasiment le même, voire plus élevé le jour J qu'un mois plus tôt. Et si vous comptez acheter une perceuse ou une scie circulaire, peut-être que vous faites des travaux ou vous avez envie de faire disparaître un corps, il est même préférable
pour mettre sous le sapin la scie circulaire, ça fera plaisir à quelqu'un.
Le corps ou la scie circulaire sous le sapin?
Vous avez les Noëls que vous voulez, hein. Ça ne nous regarde pas. Alors si vous voulez acheter une perceuse ou une scie circulaire ou tout autre objet pour faire des travaux, il est préférable d'attendre la semaine qui suit le Black Friday. Vous économiserez 4 euros en moyenne.
Ah oui, c'est pas beaucoup. Alors quel type d'article le Black Friday est-il réellement pour quel type d'article, pardon, c'est intéressant?
Alors, pour tout ce qui est dans la catégorie lifestyle, les parfums, montres, baskets et chaussures, et surtout le high-tech, avec une économie moyenne de 44 euros si l'on compare les prix un mois plus tôt. Mais là encore, prudence, cela dépend du type de produit. Vous voulez une nouvelle télé? Foncez, elles se sont vendues 16 euros moins chères lors du Black Friday 2020. 16%, oui, ah oui. Oui, 16%, oui, 16 euros, c'est pas terrible.
Non, c'est pas génial.
En revanche, si vous cherchez une console de jeu, passez votre chemin, leur prix a tendance à flamber, c'était plus 7% il y a un an. Maintenant, si l'on regarde la tendance générale, force est de constater que le Black Friday, eh bien, ce n'est plus ce que c'était. La faute aux opérations commerciales qui se multiplient à cette période de l'année. On a les French Days en septembre, le Single Day le 11 novembre, je ne le connaissais pas celui-là, le Cyber Monday juste après le Black Friday. Bref, ça fait beaucoup de days, beaucoup trop. Et on a donc des promos de plus en plus ventilés, éparpillés. Voilà pourquoi les meilleures offres ne sont pas toujours lors du Black Friday. Pire, certains produits sont même en rupture de stock avant, ce qui va forcément se reproduire cette année, mais pour d'autres raisons. Les pénuries qui touchent de nombreux secteurs, elles vont avoir un impact sur le nombre de promos. Bref, vous l'avez compris, prudence avec le Black Friday. Avec lui, on peut facilement être marron.
C'est noté. On peut facilement être marron. On utilise encore cette expression.
Oui, voilà.
Elle n'est pas en promo.
C'est une expression de Gilbert Bécaud, je pense.
C'est que des... Merci beaucoup, Julien Rudeau, sur ce pressing fort intéressant. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce jeudi avec Alban Le Prince.
La cinquième vague de Covid est là. Plus de 20 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. 1300 personnes en réanimation. Néanmoins, dans les rangs du gouvernement, on tente de relativiser. Nous avons de bonnes raisons de penser que cette vague n'emportera pas tout sur son passage, selon Gabriel Attal. 18 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. 700 000 enfants en sont victimes chaque année. De nouvelles mesures doivent être annoncées. C'est aujourd'hui par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. 10 000 euros d'amende avec possibilité d'emprisonnement s'il ne paie pas. Réquisition du parquet hier à l'encontre d'Éric Zemmour, le polémiste pas encore candidat, jugé en son absence pour ses propos sur les migrants mineurs isolés.
Europe 1. Merci d'écouter Europe 1 chaque matin. Vous le savez maintenant, on met en lumière celles et ceux qui s'engagent. Ce sont les initiatives en France et elles nous emmènent aujourd'hui dans le Finistère.
Bonjour Jonas Guerch.
Bonjour Julien Pierre.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le cofondateur avec votre frère Gabriel de la start-up 52 Hertz et vous avez développé une sorte de talkie-walkie sous-marin pour que les plongeurs puissent se parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage?
Oui, donc ça fait maintenant 2 ans que nous développons avec mon frère cette start-up qui a pour objectif de faciliter la communication pour le plus grand nombre des plongeurs et d'effectuer un talkie-walkie sous-marin qui permettrait de se mettre sur l'équipement habituel du plongeur. Et du coup, le principe, c'est que grâce à un embout de détendeur qui est équipé de capteurs, on arrive à récupérer le son de la voix.
Alors juste avant qu'on entre en détail dans le fonctionnement de votre système, on va le faire dans un instant, comment est-ce que les plongeurs aujourd'hui communiquent sous l'eau?
Aujourd'hui, pour 95%, la grande majorité des plongées sous-marines, ils communiquent avec des signes. Donc ça reste quand même un panel d'une vingtaine de signes assez limitant et limité. Après, il y a d'autres types de communication, par exemple les masques intégraux. mais qui du coup sont assez contraignants parce qu'il faut savoir déjà plonger avec, il faut acheter des équipements non communs donc dans les plongées habituelles. Donc voilà.
Ce sont deux options qui ont donc des limites. L'eau peut devenir trouble ou l'un des plongeurs peut s'égarer, ce qui effectivement limite les possibilités de communiquer. C'est comme ça, en pratiquant la plongée avec votre frère, que vous est venue cette idée de créer ce talkie-walkie sous-marin ?
C'est exactement ça. On faisait de la plongée à l'association de plongée sous-marine de Sorbonne Université. Et du coup, on plongeait beaucoup avec eux. Et lors d'un stage de plongée où on a fait plus d'une dizaine de plongées dans la semaine, il nous est venu cette idée car pour beaucoup de choses, la communication est assez limitante. C'est vrai que la plongée, c'est le monde du silence et c'est quelque chose que les plongeurs aiment. Cependant, pour tout ce qui est formation, sécurité et discussion sur la biologie, la faune et la flore marine, on arrive à être assez limité, notamment pour... Par exemple, effectivement, la plupart des accidents de plongée se font et s'empirent à cause de manque de communication, parce qu'une fois qu'il y a un problème, ça va très vite. Et donc, la communication est très importante. Et pour la formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on briefe avant la plongée, on dit ce qu'on va faire, on effectue les exercices sous l'eau, puis après, on les fait... on débriefe en dehors de l'eau. Cependant, souvent, il y a du coup quasiment une heure au minimum qui passe entre les deux et beaucoup d'informations qui sont oubliées. Donc, il y a un retour assez sur expérience assez pauvre à ce niveau-là.
Et de même, donc, il était crucial de trouver une solution pour communiquer davantage quand on est plongeur. Vous nous disiez à l'instant que votre dispositif peut s'adapter sur les équipements existants. Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement ?
En fait, on vient prendre l'équipement existant et on vient dans l'embout de détendeur l'équiper de différents capteurs. Donc, il ne change pas du tout, quasiment pas sur l'aspect. Et on arrive, du coup, on rajoute juste un petit boîtier extérieur et après, on arrive à communiquer entre plongeurs avec ça.
Donc, on ne porte pas d'oreillette, on ne porte pas de micro et on peut quand même avoir une discussion sous l'eau avec un autre plongeur.
Oui. Après, un des biais de notre développement, c'est justement de réussir à garder une intelligibilité suffisante avec l'embout de détendeur qui n'est pas modifié dans la bouche. Et donc, pour ça, on vient travailler...
En gros, c'est une sorte de dentier que l'on mord et il faut arriver à parler tout en mordant ce dentier. C'est ça ?
Oui, qu'on a dans la bouche, effectivement. Mais après, on vient travailler sur son ergonomie. Et grâce à des filtres de gains d'intelligibilité qu'on développe avec des instituts de français en informatique et intelligence artificielle, on arrive à retravailler un peu cette intelligibilité.
En tout cas, votre innovation n'est pas passée inaperçue, vu que vous venez de remporter le concours Octopus organisé par l'IFREMER. Félicitations tout d'abord.
Merci, on est très heureux d'avoir gagné ce concours et ça nous donne beaucoup d'avantages.
Merci beaucoup Jonas Gersch de nous avoir présenté votre innovation, le Talkie Divey, c'est son nom, un système de communication pour les plongeurs et c'est signé 52 Hertz, c'est le nom de votre jeune entreprise à Brest. On vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h27. Omblin, quel est le programme de la prochaine demi-heure ?
C'est l'arrivée du Beaujolais nouveau. Ce jeudi, Olivier Pouls va se muer en avocat de ce vin en perte de vitesse. Non, tous les Beaujolais nouveaux ne sont pas mauvais. Rendez-vous dans un quart d'heure.
Mais avant, Omblin, un tableau rarissime de Serge Gainsbourg mis aux enchères cette semaine.
Une toile qu'il avait offerte à Juliette Gréco en 1959. Elle le représente enfant avec sa sœur dans un jardin. Gainsbourg regrettera toute sa vie d'avoir abandonné la peinture. Il existe très peu de tableaux de l'artiste en circulation aujourd'hui. Et ce tableau constitue le clou de la vente des souvenirs de Juliette Gréco qui commence aujourd'hui. Des objets d'art sont présentés, mais aussi des effets personnels de la chanteuse. Une vente ouverte à tous. On en parle dans 10 minutes avec le commissaire priseur de la maison Cray et Muller en charge de la vente à l'hôtel Drouot à Paris.
Europe 1. En plus des insultes sur mon physique, ça a été je pique ton sac, je t'insulte, je rigole derrière toi avec tout le monde. Ça fait mal, ça fait très mal.
Ce qui fait mal, c'est le harcèlement scolaire. Chaque année, 700 000 élèves comme Mégane, que vous venez d'entendre, disent en être victimes. Le ministre de l'Éducation nationale doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau. Coup de filet dans les milieux de l'ultra-droite. Deux hommes sont en garde à vue. Ils appartiendraient à la mouvance accélérationniste. De quoi s'agit-il ? Explication dans ce journal. Bruxelles veut interdire la mise sur le marché de produits issus de la déforestation. Le café et le chocolat vont-ils devenir plus chers ? Pas sûr, nous dira l'eurodéputé Pascal Canfin. Et puis, tous les secrets de la gastronomie française racontés, non pas dans un livre, mais dans une exposition. C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 5h30 avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est un fléau que redoutent certains adolescents qui craignent d'en être la cible. Un élève sur 10 se dit victime de harcèlement scolaire chaque année en France. Le ministre de l'Éducation va profiter de cette journée nationale aujourd'hui contre ce phénomène, de lutte contre ce phénomène pour dévoiler une nouvelle série de mesures.
Fort ou fragile, le harcèlement peut toucher tout le monde. Les cours d'école et les salles de classe peuvent vite se transformer en enfer.
Insultes, moqueries, mises à l'écart, certains élèves craquent et vont même jusqu'à se suicider pour en finir. C'est ce qui a failli arriver à Mégane, violée en sixième par l'un de ses camarades. L'agression est ébruitée, mais les faits sont déformés. Le viol devient un rapport consenti. L'adolescente, qui a 28 ans aujourd'hui, va alors vivre un cauchemar jusqu'en troisième.
En plus des insultes sur mon physique, ça a été « je pique ton sac, je t'insulte, je rigole derrière toi, avec tout le monde ». Ça fait mal, ça fait très mal. J'ai fait ce qui me semblait mieux sur le moment, c'était juste d'encaisser. Je laissais faire, je regardais, je subissais. J'avais honte, je voulais plus exister, je voulais plus qu'aucun regard se pose sur moi. Et puis il y a des jours où bah, forcément vous craquez, vous essayez quand même d'en parler aux responsables du collège quand même, hein, qui eux ne vous écoutent pas. J'ai fait une tentative de suicide quand je devais avoir à peu près 14 ans. J'ai commencé et la personne qui m'a sauvée à cette époque-là, c'était ma meilleure amie, qui m'a appelée à ce moment-là. Et du coup, bon, bah, j'ai tout lâché. C'est grâce à elle que actuellement je suis encore là, parce que clairement, j'en pouvais plus, quoi. Ça laisse des séquelles. Il a fallu quand même quelques années, un peu de travail sur moi pour comprendre que déjà, j'avais été une victime, que je n'avais pas culpabilisé et surtout que je n'étais pas la personne qui prétendait que je sois. Et j'ai pu enfin souffler.
Un témoignage recueilli par Thibaut Huge ajoute qu'une proposition de loi visant à pénaliser le harcèlement scolaire sera examinée par l'Assemblée nationale le 1er décembre prochain.
Ce nouveau coup de filet dans la mouvance de l'ultra-droite. Deux hommes sont toujours en garde à vue ce matin. L'un d'eux se réclame du courant accélérationniste.
Ils ont été interpellés mardi, l'un dans le Tarn et Garonne, l'autre en Gironde. À leur domicile, les policiers de la DGSI ont découvert des dizaines d'armes et du matériel permettant de fabriquer des explosifs. Le profil de l'un des suspects intrigue les enquêteurs. L'homme se réclame du courant nazi accélérationniste. De quoi s'agit-il exactement ? Explication Océane Théard.
Dynamiter le système de l'intérieur, faire éclater une guerre entre communautés, c'est bien là le cœur de la pensée accélérationniste. Pour ces adeptes qu'on ne retrouve ni dans les manifestations, ni dans les isoloirs, le combat politique est inutile, insiste Jean-Yves Camus. Il est co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès.
L'accélérationnisme est une théorie qui est engagée sur la voie de la violence et si besoin du terrorisme, et qui a envie d'accélérer la conflagration finale entre eux-mêmes et l'ensemble de leurs ennemis. Ça va des antifascistes aux homosexuels et à tous les représentants de l'État et des institutions.
Le propre de cette mouvance d'ultra-droite, d'après ce spécialiste, c'est qu'il s'agit non pas d'un mouvement hiérarchisé, mais de noyaux, de cellules très cloisonnées qui communiquent uniquement par messagerie cryptée, comme c'est le cas pour les deux hommes interpellés dans le sud de la France. Il est donc difficile d'estimer leur nombre, mais d'après Jean-Yves Camus, il serait quelques dizaines de militants accélérationnistes en France.
Océane Théard.
Va-t-on demain payer son café ou son chocolat plus cher ? Le projet de loi européen visant à interdire les produits issus de la déforestation fait craindre une envolée des prix. Eh bien, un eurodéputé tient à rassurer les consommateurs.
Oui, le texte présenté hier à Bruxelles prévoit d'interdire la mise sur le marché des produits importés comme le café, la pâte à tartiner ou encore le chocolat s'ils sont liés à la destruction des forêts, mesures destinées à protéger le climat, mais elle ne se traduira pas forcément par une hausse des prix. Explication du président de la Commission Environnement du Parlement européen, Pascal Canfin.
Il faut trouver le juste équilibre entre une ambition très forte pour protéger la biodiversité et le climat, et en même temps, trouver une législation qui est praticable dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on s'est inspiré des pratiques des entreprises qui ont progressivement sorti la déforestation de leur sous-traitants, et certaines d'entre elles sont importantes, ce sont des gros acteurs de la grande distribution, du chocolat, du café, du lait. Elles nous disent que ça ne coûte pas plus cher. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça ne coûte pas plus cher de faire du chocolat en agroforesterie qui conserve la forêt mais qui permet d'exploiter du chocolat plutôt que de couper les arbres et de planter des plantations de café au chocolat. C'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas forcément plus cher.
Le président de la commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, il répondait à Isabelle Horry.
Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Bon appétit à vous. Et ce qui va suivre pourrait vous intéresser, on va parler gastronomie.
Et Banquet, c'est le nom de cette exposition qui vient d'ouvrir ses portes à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Un voyage culinaire autour des arts de la table, mais pas seulement. Le cerveau est autant sollicité que les papilles. Reportage Lord Autriche.
Au milieu de plats et de desserts féeriques, la science est partout. Comment bien cuire un œuf, faire un poulet au four ou encore faire mijoter le bouillon parfait. Presque aucun aliment en réalité ne doit bouillir si on veut garder les arômes intacts, dit Raphaël Aumont, physico-chimiste qui travaille aux côtés du chef Thierry Marx.
D'abord je mets le laurier et le romarin, ensuite je mets le poireau et en fin de cuisson je mets le persil. Et vous voyez, parce que la chimie de ce bouillon nous apprend que les molécules du persil sont extrêmement fragiles et elles vont s'évaporer à 40 degrés, ça y est, c'est dans la pièce. Alors ça sent très bon, et on se dit mais qu'est-ce qui me reste moi dans ma casserole et dans mon assiette.
Dans cette exposition, on découvre aussi que 80% de l'odorat ne provient pas du nez, mais de la gorge. Expérience à l'appui avec Isabelle Bousquet, muséographe.
Avec une graine de coriandre, on va devoir se boucher le nez, mâcher, manger cette graine de coriandre, se déboucher le nez, il se passe quelque chose. Tout d'un coup, tous les arômes se révèlent et c'est spectaculaire comme dispositif. C'est une partie de l'odorat qui se passe au fond de notre gorge.
Et au fil du parcours, le public est aussi mis à contribution pour goûter des madeleines et du chocolat.
Un reportage Lord Autriche, Banquet, l'exposition sur la gastronomie. C'était la Cité des sciences et de l'industrie jusqu'au 7 août 2022. Et puis un mot de tennis pour vous dire que Garbine Muguruza vient de remporter le Masters féminin de tennis. C'est le tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison. C'est un retour au premier plan pour l'Espagnol et surtout c'est la première joueuse ibérique à remporter ce Masters WTA.
Tout ça est très complet. Merci beaucoup Christophe Lamarre et à plus tard. Les courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1200 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de Fontainebleau que va se courir ce Quintet. Et sur ce tracé rectiligne, il est impératif de choisir les chevaux ayant hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. À l'image de Biehead, le numéro 8, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec dans un quintet similaire à Chantilly et qui retrouve l'hippodrome de Fontainebleau, une piste qui lui a déjà bien réussi avec Flying Candy, le numéro 4, auteur d'une excellente course de rentrée le 16 octobre à Bordeaux après plus de 6 mois d'absence et qui, je le sais, a été préparé avec soin en vue de cet objectif. Ces deux-là étant nantis respectivement des numéros 2 et 6 dans les stalles de départ. Ensuite, je vous recommande les numéros 1, Kilfrouche Memories, très expérimenté à ce niveau, 3, Bayless Blues, vainqueur de cette même épreuve l'an dernier, et 5, King Rob, un pensionnaire de Mathieu Boutin, en très grande forme à l'image de ses compagnons d'entraînement. Enfin, les numéros 9, Red 50, 10, Maris Picnic, et 16, Lomu, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 4, As, 3, 5, 9, 10 et 16.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger. Et à demain, il est 5h38 dans un instant sur Europe 1, des souvenirs de Juliette Gréco mis aux enchères à Paris.
Omblin Roche et Julien Pierce. Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à vous sur Europe 1. Il est 5h et bientôt 40 minutes et une vente aux enchères exceptionnelle commence aujourd'hui à l'hôtel Drouot à Paris. Il s'agit d'une partie des souvenirs de Juliette Gréco, des objets de collection mais également des effets personnels et intimes comme des robes, des chaussures ou des foulards. Une vente ouverte à tous et on en parle avec Thomas Muller, commissaire priseur de la maison de vente Cray & Muller.
Bonjour madame.
La jolie môme Juliette Gréco a disparu il y a un petit peu plus d'un an. Maintenant, ce sont près de 750 souvenirs de la chanteuse qui sont mis en vente aux enchères par sa petite fille Julie Amour Rossini pendant 3 jours. Alors, une question générale pour commencer. Les ventes aux enchères d'objets appartenant à des artistes célèbres se multiplient. Est-ce que c'est à chaque fois un succès ?
C'est de manière générale un succès. À partir du moment où il faut faire le choix, entre guillemets, du bon artiste, c'est-à-dire que ça ne va pas peut-être marcher avec tout le monde. Mais de manière générale, toutes les dernières ventes qui ont eu lieu sur des célébrités ont plutôt très bien marché. La dernière vente Christophe avait été, par exemple, un grand succès également.
Pendant 3 jours à l'hôtel de Rouen, on va pouvoir s'offrir un petit peu de Juliette Gréco. Les fans et les collectionneurs vont avoir le choix entre, on le disait, des objets de collection, mais aussi des vêtements et des bijoux. Alors parlons tout de suite de l'un des trésors de la chanteuse qui est en vente, qui est au centre de toutes les attentions. C'est ce tableau que Serge Gainsbourg a peint et lui a offert en 1959. Quelle est son histoire ?
C'est une histoire assez fabuleuse parce que c'est un tableau que Serge Gainsbourg donc a offert à Juliette Gréco. Beaucoup de gens l'ignorent, mais Serge Gainsbourg a fait beaucoup de peinture et a abandonné la peinture un moment pour la chanson, mais en considérant toujours que la peinture était un art majeur. Et donc il reste très peu d'œuvres de sa main parce qu'il en a détruit quasiment la plus grande partie. Et cette œuvre, il l'a offert à Juliette Gréco. Et c'est une œuvre que Juliette Gréco aimait beaucoup, dont elle parle régulièrement, en tout cas dans les archives, on retrouve des interviews d'elle où elle parle de cette œuvre. Et cette peinture a une particularité, c'est qu'en plus de ça, en 2015, Juliette Gréco l'avait déclarée comme volée. Donc elle avait fait d'ailleurs un communiqué de presse à ce sujet, en indiquant que le tableau lui avait été volé. Mais comme on en avait parlé beaucoup avec Julie Amour, sa petite fille, en réalité, le tableau, elle l'a retrouvé sous le canapé. Un des canapés, d'ailleurs, que nous avons à la vente. Et le tableau, au final, est-ce qu'il avait été dérobé et remis à sa place? Ou est-ce qu'il n'a jamais été dérobé? Ce qui est plus probablement le cas. Mais en tout cas, le tableau avait été retrouvé, il y a déjà quelques années, sous le canapé.
Parmi les autres trésors présentés, qui font partie des objets très personnels de la chanteuse, il y a ce petit carnet d'adresses de poche Van Cleef & Arpels en or, un objet intime puisqu'on retrouve les numéros de ses amis. Celui de Gainsbourg s'y trouve d'ailleurs. C'est aussi rare de trouver ce genre d'objet qui est si proche d'un artiste.
C'est la première fois personnellement que j'en vois un. Après, j'imagine qu'il a pu en avoir d'autres, mais là l'intérêt c'est qu'en plus de ça vous avez Gainsbourg, mais vous avez aussi Sagan. Que tout ça est manuscrit de la main de Juliette Gréco. Et en plus, c'est un objet extrêmement chic. C'est un petit carnet de bal, comme on pourrait l'appeler, de chez Van Cleef & Arpels, en or. Donc c'est un objet à la fois précieux et extrêmement poétique et touchant.
Il y a ce dessin aussi à l'encre de Chine sur papier de Fujita, la petite Gréco au chat. Oui. Et puis il y a cette lettre de Georges Brassens adressée à Juliette Gréco en 1966. C'est vraiment un trésor aussi assez rare de trouver cette correspondance entre deux grands artistes.
C'est tout l'intérêt aussi de ce type de vente. C'est-à-dire que quand on fait la vente d'une artiste aussi importante que Juliette Gréco, par la force des choses, on trouve des échanges qu'elle a pu avoir avec les autres artistes. Donc c'est le cas avec Georges Brassens, mais c'est aussi le cas avec les dédicaces de Boris Vian. Elle a connu quand même à peu près tout le monde à Saint-Germain dans ces années-là. Et c'est vrai que ça donne lieu à des documents qui ne sont pas très courants en vente et qui ont une provenance formidable.
Alors on le disait plus tôt, de nombreux objets vont être accessibles aux fans les moins fortunés. Dans sa garde-robe, il y a des sacs, des chaussures, des foulards. C'est important aussi de pouvoir s'adresser à tous.
Effectivement, les enchères, les lots estimés les moins chers commencent, je crois, les estimations commencent à 20 euros ou 30 euros pour certains lots qui sont des lots de plutôt on va dire de vaisselle, des lots de sa vie courante. Et puis vous trouvez aussi du linge de maison dans ces estimations-là à 20, 30, 40, 50 euros. Effectivement, cette vente s'adresse à toutes les bourses. Et aux amateurs, ou non d'ailleurs, de Juliette Gréco.
Exactement, merci beaucoup Thomas Muller. Vous êtes commissaire-priseur à la maison de vente Cray & Muller qui organise la vente à Drouot. Cette vente aux enchères publiques, succession Juliette Gréco, se déroule dès aujourd'hui et jusqu'à samedi à l'hôtel Drouot à Paris. Merci.
Merci.
Il est 6h15 sur Europe 1 et c'est l'heure de la prescription culture. Et le jeudi, c'est nos papilles que l'on chérit avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Alors comme tous les jeudis, Olivier, vous nous parlez de notre patrimoine gastronomique. Et aujourd'hui, troisième jeudi du mois de novembre, vous nous parlez d'une tradition qui est pourtant en perte de vitesse, celle du Beaujolais nouveau.
Oui, vous avez raison. Et tel Mathieu Noël, je vais devoir me faire un peu l'avocat d'une cause qui s'est perdue, celle de la tradition du Beaujolais nouveau. vous l'avez dit, qu'il faut bien le reconnaître, ne passionne plus les foules. Le phénomène s'essouffle chez nous. La faute à qui ? Eh bien, un petit peu au Beaujolais quand même. Hein. La production industrielle de vin sans intérêt aux arômes caricaturaux, obtenus grâce à des artifices de vinification. Vous savez, le fameux goût banane, cerise, cassis, tout sauf du raisin, en fait. Mais passons au-delà de ça et essayons de réhabiliter le Beaujolais nouveau. Car je vous le dis, il en existe des bons.
C'est une tradition qui remonte à quand déjà ?
Eh bien, à l'année 1951, pour être précis. Il faut savoir qu'avant cette époque, il était interdit de commercialiser le vin de l'année avant le 15 décembre. Les producteurs du Beaujolais se sont mobilisés pour avancer cette date et ils ont obtenu gain de cause le 13 novembre de la même année. La vente de vin en primeur a donc fait son apparition. C'est en 1985 que la date du troisième jeudi du mois de novembre devient la date officielle de sortie pour ces vins. Le succès est immédiat, relayé par un plan marketing bien pensé. Et la région se jette à corps perdu dans ce qui apparaît être une fantastique poule aux œufs d'or. Dans les années 70, les volumes explosent et le Beaujolais nouveau va jusqu'à représenter pratiquement 50% de la production de l'appellation.
Mais voilà une médaille qui a son revers, Olivier.
Eh bien oui, parce que le Beaujolais nouveau éclipse totalement le reste de la production et notamment les meilleurs vins produits sur des terroirs fantastiques. Vous savez qu'il y a 10 crus dans le Beaujolais, Morgon, Chiroble, Moulin un vent, etc., etc. Et les bidouillages œnologiques aussi font du tort aux produits. Les clients sont de plus en plus déçus et ils n'ont pas tort. Les volumes s'écroulent. Ils ne représentent plus que 25% aujourd'hui à peine de la production et 40% par l'export, essentiellement au Japon. Mais quand même, il y a aujourd'hui une nouvelle génération de vignerons qui veulent à nouveau faire du Beaujolais nouveau un produit festif, décomplexé, abordable et surtout authentique avec un vrai goût de vin. Dans les bons bars à vin et les bistrots authentiques où on sait choisir les vins, on trouve donc des cuvées de belles factures, je vous le garantis. Un bon glouglou à boire entre copains, comme
bon,
on dit.
Un bon glouglou. Alors que vaut-il ce millésime 2021 ?
C'est un millésime quand même compliqué. Hein, sur le plan de la viticulture cette année, on l'a vu, du gel, de la grêle, des maladies. Conséquence, c'est la plus petite récolte qu'on a rentrée depuis 50 ans. Mais des jus de belle qualité avec de la concentration. Les prix donc devraient être légèrement orientés à la hausse. Il faut savoir qu'une bonne bouteille de Beaujolais nouveau coûte toutefois moins de 10 euros. Alors les amis, retrouvons le sens de cette fête, choisissons le bien et puis goûtons du Beaujolais, c'est une belle région, je vous le garantis.
Un bon Beaujolais nouveau à consommer avec modération. Merci beaucoup Olivier.
Bonne journée.
Il est 5h48 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce jeudi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
La cinquième vague de Covid déferle sur l'Europe. La Belgique repasse au télétravail. La Suède instaure un pass vaccinal. Et la France ne passe pas entre les mailles du filet. Plus de 20 000 cas ces dernières 24 heures. Le gouvernement pousse les Français à se faire vacciner. Concernant la dose de rappel, les sociétés savantes de gynécologie recommandent dans un communiqué d'ouvrir cette troisième injection aux femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse. 700 000 enfants victimes de harcèlement scolaire, chiffre hallucinant. Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, de nouvelles mesures doivent être annoncées par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Europe
Matin. L'actualité de ce jeudi, on la trouve aussi dans vos quotidiens régionaux. C'est en France. Un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Thomas Dagbert.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à Nord Littoral où l'on apprend ce matin à la lecture qu'il n'y a plus de grévistes de la faim à Calais. Les deux bénévoles qui dénoncent la situation des migrants ont stoppé leur action ?
Oui, c'est ça. Donc hier matin, ils ont annoncé ça face à la presse. En l'église Saint-Pierre, hein, là où ils résidaient depuis maintenant 38 jours. Donc voilà, ils ont expliqué être fatigués et ne pas avoir de réponse, être en colère également, parce que tout simplement, selon eux, on ne répond pas à leurs attentes qu'ils jugent assez minimes. Donc voilà, ils ont préféré mener le combat sous une autre forme, mais plus avec cette grève de la faim à Calais.
Alors il faut préciser qu'à l'origine, ils étaient trois, avec le père Philippe de Mester, qui a lui arrêté sa grève de la faim il y a 2 semaines. Beaucoup de dépit, donc. Est-ce que cette grève, au final, a servi à quelque chose ?
Quand on leur pose la question, oui, effectivement, puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médias qui se sont déplacés, donc les locaux forcément comme dans le littoral, mais d'autres également, même de la presse étrangère. Donc voilà, ça a remis un petit peu la lumière sur ce qui se passait à Calais. Après, on n'a pas répondu à leurs questions, comme il l'expliquait hier matin, et c'est d'ailleurs un courrier reçu du ministère de l'Intérieur qui a un petit peu précipité leur décision, donc dans lequel ils apprennent que leur principale revendication, hein, donc qui est l'arrêt des expulsions pendant la trêve hivernale, le ministère n'y répondra pas favorablement et les expulsions vont donc continuer. C'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui les a précipités sur cette fin de la grève de la faim.
Qu'en est-il du fameux sas d'accueil censé recevoir des migrants la nuit? C'était l'une des annonces de ces dernières semaines.
Oui, c'est ce qui a été mis en place début novembre, mais on a appris hier avec un petit peu de surprise que finalement le sas était fermé, donc après seulement une petite quinzaine de jours de fonctionnement. Au total 300 places ont été trouvées, donc 300 places d'hébergement d'urgence pour les réfugiés, donc 150 dans le département et 150 à l'extérieur, sur le territoire français. Apparemment, c'était une volonté de l'État dès le début, mais ça ne nous avait pas été annoncé comme ça au niveau de la presse. Donc tout le monde était très très étonné. On attend des réponses aujourd'hui, notamment de la préfecture du Pas-de-Calais, pour savoir si les mises à l'abri vont continuer, quelle sera la prise en charge qui va continuer et qui va perdurer à Calais.
En tout cas, la fermeture de ce SAS coïncide avec l'arrêt de ces grèves de la faim. Merci beaucoup Thomas Dagbert de nous avoir raconté votre article à lire donc aujourd'hui dans Nord Littoral. Très bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Excellent jeudi avec nous sur Europe 1, 5h56. Dans un instant, la météo, le journal et une question, Julien.
Mais à quoi joue la Russie? On vous en parle depuis quelques jours. Moscou a détruit lundi dans l'espace l'un de ses satellites à l'aide d'un missile. L'explosion qui a provoqué un nuage de débris spatiaux et la panique dans la Station Spatiale Internationale. S'agit-il d'une provocation, d'un message envoyé au reste de la planète? Message qui dirait en substance ceci: nous sommes prêts à faire de l'espace un champ de bataille. Sommes-nous à l'aube d'une guerre spatiale? Ou en tout cas d'une militarisation à marche forcée de notre voûte céleste. On en parle dans une dizaine de minutes avec Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de l'espace, extrêmement intéressant et passionnant. On écoutera ensuite votre partition, Blin.
Oui, une immense artiste jazz, l'une des plus grandes voix du XXe siècle.
Baby, my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares.
Les débuts de Nina Simone devant son piano qui se rêvait en première pianiste classique noire. Rendez-vous dans 20 minutes.
Il est 6h. La Belgique impose le retour du télétravail. L'Allemagne y réfléchit. La cinquième vague de restrictions se rapproche de la France où les contaminations progressent. Décryptage des derniers chiffres dès le début de ce journal. L'indépendance des maires de France. Voilà ce que promet le patron de l'AMF, l'élu LR David Lisnard, désigné hier. Le maire de Cannes, nouveau caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Il y a 56 ans, Malcolm X était assassiné aux États-Unis. Deux hommes accusés à tort vont être innocentés. Des preuves cruciales avaient été dissimulées à l'époque par le FBI, le récit de notre correspondant à New York.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Confinement, le mot réapparaît ici ou là en Europe. La Belgique a déjà acté le télétravail obligatoire. L'Allemagne tranche aujourd'hui. Tour de vis attendu demain aussi au Portugal. La cinquième vague est bien là, y compris en France. Plus de 20 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Afsane Saboui, pas de doute, le virus est de retour.
Oui, tous les indicateurs témoignent que le virus circule à nouveau beaucoup. Le taux d'incidence moyen pour toute la France est de 106 cas pour 100 000 habitants, avec des départements comme l'Ardèche ou la Haute-Corse qui dépassent 200 cas pour 100 000 habitants. Et cette forte circulation du virus commence à se ressentir à l'hôpital. Il y a actuellement 7663 personnes hospitalisées pour Covid en France. Un tiers d'entre elles sont arrivées à l'hôpital ces 7 derniers jours. Mais il faut se souvenir qu'il y a un an, à la même époque, alors que nous étions au plus haut de la deuxième vague, il y avait plus de 33 000 personnes hospitalisées. Donc pour le moment, la vaccination joue bien son rôle de digue contre cette cinquième vague. Vaccination à laquelle il faut ajouter plus que jamais les gestes barrières de port du masque en lieu clos et d'aération.
Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
Un premier bilan déjà éloquent. En deux semaines, la commission Inceste a recueilli plus de 6200 témoignages. Un tiers des victimes a confié avoir tenté de se suicider.
Des témoignages recueillis via une plateforme téléphonique et 7 fois sur 10, les affaires sont classées sans suite. Virginie Riva nous explique pourquoi.
Les preuves matérielles sont quasi inexistantes dans ces affaires. L'enquête repose sur la parole de l'enfant confronté à celle de son agresseur. Le recueil de cette parole est donc extrêmement précieux mais difficile. Il nécessite des enquêteurs formés. Depuis 2016, la gendarmerie a fait des efforts, mais 60% des auditions ne sont toujours pas conduites par des personnels qualifiés, comme le regrette le capitaine Jean-Michel Breton du Centre national de formation de la police judiciaire pour la gendarmerie nationale et membre de la commission Inceste.
Les gendarmes sont formés en appliquant le protocole qui permet de recueillir, et c'est les études scientifiques qui le prouvent, de 70 à 80% de plus d'informations de la part de l'enfant. L'importance de l'audition d'un enfant, elle est de recueillir des éléments qui vont nous permettre de caractériser une infraction et de pouvoir poursuivre l'auteur.
L'enfant doit être guidé par des questions ouvertes, sans jugement. L'enquêteur doit très vite comprendre son stade de développement et utiliser un niveau de langage approprié. Autre élément important, l'enfant doit être accueilli dans des salles neutres où il se sentira en confiance et restera concentré. Il en existe 350 actuellement sur tout le territoire.
Virginie Riva.
Je ne vous lâcherai pas la main tendue d'Emmanuel Macron aux 1000 maires de France invités hier soir à l'Élysée.
Une réception où le chef de l'État a aussi félicité un nouveau président, celui de l'Association des maires de France. David Lisnard, élu LR de Cannes, a été désigné avec 62% des voix face au maire UDI Philippe Laurent. Le nouveau président a promis l'indépendance de l'association. Place aux actes pour les maires de France réunis porte de Versailles à Paris. Le reportage de Victor Chabert.
Dans les allées du parc des expositions, si la majorité des maires saluent la continuité avec l'équipe précédente, ils font un vœu pieux que David Lisnard se tienne loin des considérations politiciennes, comme cet élu d'une petite commune de 390 habitants de l'Isère.
C'est très bien, on a un nouveau président. En revanche, j'espère que nous pourrons continuer à travailler comme nous le faisions avant, en dehors des partis.
David Lisnard est attendu sur de nombreux dossiers, en priorité, selon ce maire insoumis de la banlieue lilloise, la relation avec l'exécutif.
J'espère que ça sera un président qui va tenir ferme par rapport au pouvoir et au gouvernement, parce que les maires et les collectivités locales prennent cher, si je peux dire comme ça.
Même au Rassemblement national, on se réjouit de son élection. Pour David Racheline, maire de Fréjus et vice-président du RN, c'est aussi un nouveau raté pour Emmanuel Macron, accusé d'être derrière la candidature concurrente de Philippe Laurent.
C'est un échec pour le président de la République qui a tenté de manœuvrer. C'est faire passer le message des maires au plus haut niveau de l'État. Bon, je pense que David Lisnard saura le faire.
Cet après-midi, David Lisnard prendra la parole pour la première fois. Un discours qui sera suivi par celui d'Emmanuel Macron.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
David Lisnard, nouveau président de l'Association des maires de France, qui sera l'invité exceptionnel de la France Bouge tout à l'heure. Rendez-vous à 13h sur Europe 1.
Et puis un autre rendez-vous à noter, celui du troisième débat entre les candidats à l'investiture LR, organisé dimanche soir sur Europe 1. Près de 150 000 militants sont appelés à voter à partir du 1er décembre. Un nombre d'adhérents multiplié par 2 en 2 mois.
Qui a tué Malcolm X ? Nouveau rebondissement aux États-Unis 56 ans après l'assassinat de cette figure de la lutte pour les droits civiques.
Dans une interview au New York Times, le procureur de Manhattan a annoncé que deux hommes allaient être innocentés. Ils avaient été condamnés à tort dans les années 60. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alexis, des preuves cruciales avaient été dissimulées par le FBI et la police de New York.
Oui, c'est le bilan de 22 mois d'enquête relancé l'an dernier après la diffusion d'un documentaire sur Netflix. Selon le procureur, les preuves en question auraient conduit à l'acquittement des deux hommes. Un témoignage qui appuie un alibi, un autre qui ne concorde pas avec la description d'un tireur ou encore la présence d'agents infiltrés dans la salle au moment de la fusillade. Ils n'ont pas eu le droit à la justice qu'ils méritaient, assure le procureur, qui a déjà présenté ses excuses aux familles et donnera tout à l'heure une conférence de presse pour demander la levée des condamnations. On ne connaît pas encore l'identité des deux hommes, mais selon le New York Times, il s'agit de Mohamed Aziz et Khalil Islam. Ils ont passé plus de 20 ans en prison et n'ont cessé de clamer leur innocence. Alors il reste toujours des questions sans réponse après cette nouvelle enquête. Qui a tiré sur Malcolm X ? Pourquoi la police n'a-t-elle pas pu empêcher cet assassinat alors que le militant était menacé de mort ? Beaucoup de témoins, d'enquêteurs de l'époque sont décédés, des documents clés ont été perdus au fil des années. Ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître la gravité de notre erreur, a souligné le procureur.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Merci Romain Noquet, c'était le journal de 6h.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec l'OM qui s'en sort bien.
Oui, le club olympien était sous le coup d'un retrait de points après les débordements de ses supporters à Angers en septembre. Mais la commission de discipline a décidé d'être clémente hier. Elle statuait sur les débordements lors du classique contre le PSG. Pas de points en moins donc, mais un huis clos total pour la réception de 3 à la fin du mois. Les Olympiens vont donc pouvoir préparer l'affiche contre Lyon dimanche plus sereinement, avec le retour d'un nouvel international, Matteo Guendouzi, qui après 5 rassemblements avec les Bleus, a enfin pu fêter sa première sélection. Écoutez.
Je suis resté patient et c'est le rêve de tout footballeur de pouvoir jouer avec la plus grande équipe du monde. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait mes premières minutes. C'est beaucoup d'émotions, une très grande fierté et les premières d'une longue série, j'espère.
Il y avait du foot féminin hier soir, Martin.
Oui, et Lyon qui chute pour la première fois de la saison à Munich, défaite 1-0 contre le Bayern. Mais les Lyonnaises restent leaders de leur groupe. Ce soir, c'est le PSG qui se frotte au Real Madrid et qui va tenter d'oublier l'affaire Amraoui et la claque reçue contre Lyon dimanche dernier.
Un mot de karaté et un champion olympique souverain.
Oui, Steven Dacosta est bien parti pour entrer un peu plus dans l'histoire du karaté tricolore. Après son titre olympique à Tokyo, il s'est qualifié hier pour la finale des championnats du monde. Mais le Lorrain se projette déjà sur les épreuves par équipe demain.
Le boulot est fait, par contre il reste beaucoup de travail en équipe et là, donc l'objectif non, c'est vendredi. Finale, c'est, on va dire, c'est validé pour l'instant et tout le monde sait qu'une finale ça se perd pas, enfin ça arrive mais il faut, voilà. le gros travail est fait. Donc maintenant il faut faire le gros boulot en équipe et j'espère que ça ira au bout.
Pour la défense de son titre individuel, un rendez-vous samedi 15h, heure française.
En bref, pour terminer, Martin.
And ladies and gentlemen, may I present to you the Akron WTA Finals singles champion Garbiñe Muguruza.
Du tennis avec la victoire de l'Espagnol Garbiñe Muguruza au Master féminin de Guadalajara cette nuit. Du basket avec la défaite de Monaco contre Tel Aviv hier en Euroleague. Et puis enfin un peu de boxe, on connaît le prochain adversaire de Tony Yoka, il est français. Le champion olympique de Rio affrontera Carlos Takam en janvier à Bercy.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on va prendre de la hauteur, direction l'espace qui pourrait bien devenir le champ de bataille du futur. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Julien, est directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de l'espace.
Bonjour Xavier Pascaud.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Lundi, la Russie a détruit l'un de ses vieux satellites à la suite d'un tir de missile, explosion à 500 km d'altitude qui a engendré un nuage de débris spatiaux et par la même occasion la panique dans la Station spatiale internationale. Est-ce qu'à travers cette démonstration de force et la mise en danger des astronautes de l'ISS, Moscou a d'une certaine manière relancé la guerre des étoiles ?
Alors, oui, comme vous le disiez, c'est une démonstration de force. Alors, ce n'est pas le premier pays qui opère une interception de satellites à l'aide d'un missile. Mais on a effectivement l'affirmation par la Russie, on va dire, d'une position forte dans le cadre de discussions internationales sur la militarisation de l'espace qui sont de plus en plus tendues, en fait, avec, au bout du compte, des satellites qui deviennent l'enjeu un peu d'un rapport de force.
Donc pour vous, c'était une provocation délibérée de la part de la Russie qui, je le rappelle, avait deux cosmonautes à ce moment-là dans la Station spatiale internationale.
Alors voilà, disons que on a affaire à un missile hein, qui intercepte un satellite. Et alors ces missiles sont aussi souvent utilisés, par exemple, pour préparer des défenses antimissiles. Donc on voit que l'espace est pris finalement dans une espèce de confrontation stratégique, hein, finalement, avec des grands programmes de défense, à la fois de défense antimissile et éventuellement de destruction de satellites. Et donc, d'une certaine manière, on a effectivement l'espace est un peu pris en otage en fait de ces confrontations stratégiques, en particulier dans le cas présent entre la Russie et les États-Unis.
Est-ce que pour autant, l'espace est en train de devenir un champ de conflictualité comme un autre ? C'est-à-dire on se provoque, on se venge, on joue à se faire peur, exactement comme c'est en train de se passer en ce moment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ?
Alors oui, un peu, en quelque sorte, comme vous disiez, on se provoque un peu, on joue à se faire peur. Alors en même temps, l'espace, ce n'est pas tout à fait un champ de confrontation comme un autre, parce que dans le domaine spatial, en fait, tous les pays sont interdépendants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée, avec ce genre d'événement, on crée des débris de manière un peu catastrophique, tout le monde en paye le prix. Hein, dans l'espace, dès qu'un débris est créé à certaines altitudes, et en particulier à l'altitude concernée, on était là à peu près à 500 km, eh bien on va générer un ensemble d'objets finalement qui vont pouvoir le cas échéant, je dirais, mettre casser tous les satellites présents, y compris d'ailleurs les satellites de l'auteur hein, de la crise. Donc, c'est quand même un peu particulier. Dès lors qu'on touche à l'espace, on peut en fait compliquer la vie de tout le monde dans l'espace. Donc, c'est un peu autorégulateur. C'est-à-dire qu'on se retient quand même normalement de tout événement catastrophique. Et à ce titre-là, c'est vrai que cet événement par la Russie pose un peu problème.
Quand vous dites que c'est un autorégulateur, c'est pour ça qu'il n'y a aucun texte qui régit ce genre de fait qui interdit explicitement sur le papier qu'on ne puisse pas envoyer un missile à aller faire exploser un satellite à 500 km d'altitude ?
Alors voilà, oui, il y a très peu de textes. Il y a 5 textes internationaux, dont un grand texte qui est le traité de l'espace de 1967, qui réglemente très faiblement en fait l'activité spatiale. La seule chose qui soit interdite aujourd'hui par les traités internationaux, c'est de mettre dans l'espace des bombes nucléaires, hein, ce qu'on appelle des armes de destruction massive. Mais par exemple, effectivement, cette expérimentation qui a été faite, elle a été faite par les Chinois en 2007, les Américains en 2008, même les Indiens en mars 2019, ça, ce n'est pas interdit par les traités. Alors, en revanche, on a des négociations internationales aujourd'hui, des discussions internationales sur le projet, le cas échéant, d'un texte qui interdirait ce type d'expérimentation.
L'autre question que soulève ce tir de missile, vous l'avez un peu évoqué, c'est celui de la gestion des débris spatiaux. Là aussi, il n'y a aucune gestion, entre guillemets ?
Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas de gestion des débris spatiaux. Alors, il y a quand même un accord minimal entre agences spatiales, mais on est plus dans le domaine civil, on va dire, qui, par exemple, se sont mises d'accord. Par exemple, dès lors qu'un satellite ne fonctionne plus en orbite basse, eh bien, il est fortement recommandé, mais ce n'est pas un traité, fortement recommandé de faire rentrer le satellite dans l'atmosphère dans les 25 ans qui suivent sa fin de vie.
Sauf
de la même façon en orbite. Oui.
Ça, c'est pour les agences spatiales, sauf que depuis, il y a énormément d'acteurs privés qui sont arrivés. Je pense à SpaceX qui envoie des dizaines de milliers de microsatellites dans l'espace.
Alors, c'est vrai, mais au regard du droit international, y compris quand il s'agit d'un acteur privé, au final, l'entité qui est responsable, c'est l'État. C'est ce qu'on appelle l'État de lancement. Donc, de toute façon, pour SpaceX, ce seront les États-Unis qui auront la même responsabilité que si c'était un satellite gouvernemental de faire rentrer le satellite. Donc, aujourd'hui, il y a des lois spatiales nationales, par exemple, qui imposent aux acteurs privés d'obtenir une licence auprès de leur gouvernement, qui eux-mêmes imposent des restrictions. Donc, il y a quand même cet agencement législatif ou juridique qui permet de réguler un peu les choses.
Merci beaucoup, Xavier Pascaut, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Très bonne journée et à bientôt.
Il est 6h17, vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1, la partition de Nina Simone.
Ombline Roche et Julien Pierce.
6h19, le journal permanent, Alban Le Prince.
Nous sommes 5 à 7 millions à avoir eu recours à l'aide alimentaire l'année dernière. Résultat du rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France du Secours catholique. Ce matin, la crise sanitaire a accentué la précarité des plus fragiles. La cinquième vague est là. Plus de 20 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Et puis un vaste réseau international de prostitution démantelé. 19 personnes soupçonnées d'avoir exploité au moins une quarantaine de jeunes femmes paraguayennes en région parisienne ont été interpellées en France, en Espagne et au Paraguay.
On termine avec votre partition, Ombline, consacrée à celle qui est devenue, selon le magazine Time, l'une des plus grandes artistes de son siècle, la grande prêtresse du jazz et de la soul, Nina Simone.
Elle possédait l'oreille absolue, Julien, la virtuose Nina Simone voulait devenir une grande pianiste, la première pianiste classique noire de l'histoire, mais l'histoire américaine en décidera autrement.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else.
Nina Simone naît en Caroline du Nord après la Grande Dépression, dans une Amérique rongée par la ségrégation.
Eunice Kathleen Wayman, de son vrai nom, découvre le piano à l'église. Jeune prodige, l'employeur de sa mère comme femme de ménage, stupéfait par son don et sa dextérité sur un clavier, lui prend des leçons payées. Son professeur est une voisine, une anglaise, Miss Maisie, qui va jouer un rôle capital dans son début de parcours.
C'est cette Miss Maisie qui organise pour elle son premier récital.
Eunice a 11 ans, ses parents ont sorti pour l'événement leur habit du dimanche et s'installe au premier rang. Lorsqu'un membre de l'organisation du concert les invite à se déplacer dans le fond de la salle pour laisser leur place à des blancs, la jeune pianiste proteste. Le journaliste Frédéric Adrian écrit dans sa nouvelle biographie consacrée à Nina Simone que cet événement a pour effet d'exacerber chez elle la conscience de la discrimination et du racisme institutionnalisé.
I love you, Porgy.
Dans Dans son monde rythmé par le gospel, la jeune Eunice aime Beethoven et Bach.
Son travail acharné lui permet de participer à des sessions d'été de la prestigieuse Juilliard School of Music à New York. C'est décidé, jouer du piano sera son métier. Et ce n'est pas le refus ensuite d'une autre école réputée qui va l'en dissuader. Pour l'heure, il faut bien manger. Eunice a 18 ans et donne notamment des cours de piano jusqu'au jour où elle passe la porte d'un club qui ne paye pas de mine à Atlantic City.
Ain't never been blue. No, no, no.
Au Midtown Bar, celle qui s'apprête à devenir Nina Simone est embauchée en tant que pianiste.
C'est à ce moment-là qu'elle choisit de changer de nom, Nina, comme le surnom que lui a donné un petit ami latino-américain, Simone. Comme Simone Signoret, elle joue du classique, mais aussi du jazz et du blues, et elle chante. Une obligation si elle ne veut pas être remerciée par son patron. Nina Simone va ainsi se forger une solide réputation.
À la fin des années 50, elle passe naturellement de la scène au studio d'enregistrement.
Son premier album, Little Girl Blue, est une leçon de piano. Elle enregistre des reprises de George Gershwin, Arthur Hamilton et reprend une chanson écrite 30 ans plus tôt qui deviendra un succès monumental.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care.
Nina Simone avec Ma Baby Just Cares For Me, extrait de son premier album Little Girl Blue, sorti en 1959, qui va être réédité le 3 décembre prochain.
Ça fera un très beau joli cadeau de Noël tout ça. Merci beaucoup Ombline. Restez avec nous dans un instant, votre matinale avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin, 6h27, excellente matinée sur Europe 1.
Et à demain 5h, bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous?
C'est extrêmement bien.